Vous écoutez, on lit pour vous.
Les notions d'autodétermination et d'autonomie dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Un texte de Doris Farget, Geneviève Motard et Émilie Fortin-Lefebvre, paru le 4 mai 2023 dans la revue Les Cahiers du CIERA. Cet article vise à poser quelques jalons pour mieux comprendre le droit à l'autodétermination et le droit à l'autonomie des peuples autochtones dans ses dimensions juridiques, politiques et économiques. Il s'attache à explorer leurs significations respectives, de même qu'à mettre en lumière la diversité de leurs manifestations concrètes. Il aborde enfin le cadre et les limites de leur mise en œuvre dans le contexte précis de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, article 3. Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Article 4. Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes. Article 5. Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l'État. Article 18. Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles. Article 19. Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés, par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d'obtenir le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Article 23. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d'être activement associés à l'élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d'autres programmes économiques et sociaux les concernant et, autant que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres institutions. Article 34. Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu'ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Article 46. 1. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considéré comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d'amoindrir, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'un État souverain et indépendant. 2. Dans l'exercice des droits énoncés dans la présente déclaration, les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L'exercice des droits énoncés dans la présente déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conforme aux obligations internationales relatives aux droits de l'homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s'imposent dans une société démocratique. 3. Les dispositions énoncées dans la présente déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi. Les articles 3, 4, 5, 18, 19, 23 et 34 enchâssent dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, DNUDPA, des droits de trois types. Le droit à l'autodétermination et le droit à l'autonomie des peuples autochtones, dont l'autonomie politique, sociale et économique, ainsi que le droit à la participation des peuples autochtones au processus décisionnel. Ils mettent fin aux débats activés par les États membres visant à limiter l'exercice du droit à l'autodétermination par ces peuples. Ils ont aussi suscité l'importante résistance des États du Kansas, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Australie, durant les négociations de la DNUDPA et au moment de son adoption par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007. Ils s'inscrivent, cependant, dans la mouvance de dispositions et de résolutions plus anciennes, notamment les articles 1, 2 et 55 de la Charte des Nations unies, les résolutions 1514 et 2625 de l'Assemblée générale des Nations unies et l'article 1er, commun aux deux pactes internationaux, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans les lignes qui suivent, et vu leur ancrage dans la DNUDPA, nous allons circonscrire deux notions, celle de droit à l'autodétermination et celle de droit à l'autonomie. Nous nous concentrerons sur ces deux notions, sachant qu'il arrive qu'elles soient confondues. Pour sa part, le droit à l'autonomie sera abordé dans ses dimensions juridiques, politiques et économiques. Pour les fins de cet article, vu les développements et les nuances requises que nous n'avons pas le temps d'aborder ici, nous laisserons de côté le droit à la participation des peuples autochtones et ses interférences avec le droit à l'autodétermination et le droit à l'autonomie. Vous écoutez les notions d'autodétermination et d'autonomie dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, un texte de Doris Farget, Geneviève Motard et Émilie Fortin-Lefebvre, paru le 4 mai 2023 dans la revue Les Cahiers du Sierra. Le droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination est un droit collectif appartenant aux peuples, dont les peuples autochtones, permettant l'exercice du libre choix politique, économique, social et culturel pour ses titulaires, y compris en matière d'orientation des programmes sociaux et économiques et de structures institutionnelles et normatives. Plusieurs perspectives existent sur ce droit et quatre seront ici abordées pour mieux le comprendre. Premièrement, en droit international, il est généralement présenté à travers deux dimensions. L'une consiste en la dimension interne de ce droit. Elle conduit à l'exercice du libre choix à l'intérieur même des frontières de l'État déjà existant. L'autre, la dimension externe, inclut le droit pour un peuple de faire sécession pour se constituer en nouvel État ou pour fusionner avec un autre État. Bien que cette dichotomie soit contestée, elle révèle que la portée de ce droit varie sur un spectre et que plusieurs interprétations cohabitent. En la matière, les diverses interprétations données à l'article 3 de la DNUDPA sont démonstratives. L'une d'elles, particulièrement prônée par les États et leurs représentants, veut que cette disposition soit interprétée en relation avec les articles 4 et 46 de la DNUDPA, n'en chassant ainsi que la dimension interne du droit à l'autodétermination à celle qui consiste à s'auto-gouverner à l'intérieur même des frontières de l'État déjà existant. Une autre interprétation, très présente dans le discours des représentants autochtones ayant participé à la rédaction de la DNUDPA, n'exclut pas l'exercice d'un plein droit à l'autodétermination, incluant sa dimension externe, une avenue qui serait cependant peu recherchée par les peuples autochtones. Deuxièmement, le droit à l'autodétermination peut aussi être perçu comme un outil de justice distributive qui protège la répartition juste des pouvoirs souverains. Troisièmement, pour d'autres auteurs, le droit à l'autodétermination consiste en un droit inhérent, impulsé par et selon les valeurs autochtones. Il prend donc racine dans la volonté et les choix du peuple qui s'autodétermine et se fonde inévitablement sur la revitalisation des traditions culturelles et sur des relations de nation à nation, nourries par la résurgence comme processus d'autodétermination et de décolonisation. Enfin, selon une perspective relationnelle du droit à l'autodétermination, la liberté étant marquée par les contingences contextuelles, l'interdépendance avec les autres, peuples humains et plus qu'humains, et le contrôle des interactions qui en résultent, conduit le droit à l'autodétermination à prendre de multiples formes. Ce dernier peut se concrétiser tant par des actes de rébellion ou de résistance que par des pratiques de coopération. Dans ce contexte, puisque l'autodétermination sert d'abord à avancer l'agentivité des peuples autochtones, il n'y a pas d'absolu. En fonction des contextes et du type d'interaction choisi, le droit à l'autodétermination peut se matérialiser par la coopération avec l'État ou en rupture avec celle-ci. En la matière, la position de John Burroughs rejoint celle de Cheryl Lightfoot, pour qui « The new challenge, therefore, is to imagine and create means of indigenous self-determination that do not revolve around or rely on state structures. This necessarily involves a decoupling of sovereignty from self-determination, which will eventually impact not only indigenous peoples, but also all peoples. The wider implication is that self-determination can now mean something other than independent, territorial, sovereign statehood, although the formidable challenge is to create a new meaning that does not result in a diminished, second-class form of self-determination for indigenous peoples. The meanings of both self-determination and decolonization are therefore evolving on the global level, and indigenous rights have an important role to play in the global conversation surrounding that evolution. Due to the intervention of global indigenous politics, a future imagining of self-determination will likely involve sovereignties that may be plural and multiple, and political relations that are grounded in mutual respect and ongoing negotiated power relations. Lightfoot, 2016. À la lumière de ces quatre perspectives, le droit à l'autodétermination peut ainsi s'exercer autant à travers un référendum de sécession qu'à travers l'écriture d'une constitution fondée sur les traditions juridiques propres à la communauté qui rédige le texte, sur la base de son droit inhérent, ou encore prendre la forme de la négociation libre d'un palier de gouvernance autochtone au sein d'un État déjà existant, ou émaner de la participation aux institutions étatiques et de la participation équitable à l'économie nationale et mondiale. Ce ne sont là que quelques exemples. Toutefois, exercer sur la base de la DNUDPA, l'amplitude que pourra prendre la démarche d'autodétermination est encadrée par l'article 46 du texte, notamment par le respect de l'intégrité territoriale, de l'unité politique d'un État souverain et indépendant, des droits humains et des libertés fondamentales de tous, des principes de justice, de démocratie, d'égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi. L'exercice de l'autodétermination étant façonné en fonction d'un contexte et d'une volonté propre, cela ne signifie pas d'emblée que cet encadrement le rend impossible tel que circonscrit. Cependant, les conditions inscrites à l'article 46, disposition névralgique, révèlent l'emprise des États sur la dernière mouture du texte, en particulier le Canada et ses alliés, et la place qu'occupe encore la préservation de leur souveraineté au sein de l'Organisation des Nations Unies. L'arrimage entre cet article et le droit à l'autodétermination laisse ainsi place à de nombreuses questions. Par exemple, comment articuler l'article 46 de la Déclaration avec le droit pour tous les peuples issus de territoires non autonomes ou de tout autre territoire n'ayant pas accédé à l'indépendance de jouir d'une indépendance et d'une liberté complète prévues à l'article 5 de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations Unies? Cette résolution, aussi appelée Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée dans un contexte de guerre de décolonisation sur le fondement de la Charte des Nations Unies le 14 décembre 1960 par l'Assemblée générale des Nations Unies, prévoit aussi à son article 7 l'engagement des États de respecter les droits souverains et, ellipse, l'intégrité territoriale de tous les peuples. Comment, en moins de 50 ans, un tel engagement a-t-il glissé vers l'enchâssement d'un droit à l'autodétermination s'exerçant dans le respect de l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'un État souverain et indépendant? En outre, en fonction de quelles perspectives autochtones, étatiques, les notions de démocratie, d'égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance, de droits humains, de bonne foi, ainsi que les principes de justice, sont-ils à interpréter? Et, selon la perspective retenue, peut-elle contraindre un processus d'autodétermination? Si oui, comment? Le droit à l'autonomie, aspect juridique, politique et économique. La DNUDPA ne propose pas de définition du droit à l'autonomie. L'autonomie est, comme le montrent les diverses expériences à l'international, un concept relatif, variable, dépendant des contextes et des aspirations des groupes ou entités en présence. En clair, le concept d'autonomie est souple et flexible. Cela fait en sorte que l'évaluation de l'autonomie et la pleine mesure de sa signification juridique et politique demeurent parfois confuses. En effet, non seulement l'évaluation de l'autonomie est une question de degré, mais aussi plusieurs sens peuvent lui être attribués. Dans nos travaux, le droit à l'autonomie s'exprimant dans le cadre d'un État colonial s'évalue à l'aune de trois grands paramètres. 1. Le caractère libre, dépourvu d'interférence par l'État, des décisions prises par le peuple ou de la communauté autochtone, incluant la manière de concevoir l'ordre juridique, autonomie-liberté. 2. La portée des responsabilités exercées, exemple, la juridiction personnelle, c'est-à-dire la capacité d'un gouvernement d'appliquer ses lois uniquement à certaines personnes sur la base de critères d'identité. Un gouvernement autochtone qui n'appliquerait ses lois qu'à des membres de sa nation indépendamment de leur localisation, par exemple, ou la juridiction territoriale, c'est-à-dire la capacité d'un gouvernement à appliquer ses lois à toute personne sur un territoire déterminé, et la capacité d'exercer ses responsabilités, autonomie, compétence. 3. La nature égalitaire des relations avec l'État, autonomie, égalité. Vous écoutez les notions d'autodétermination et d'autonomie dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, un texte de Doris Farget, Geneviève Motard et Émilie Fortin-Lefebvre, paru le 4 mai 2023 dans la revue Les Cahiers du CIRA. Dans tous les cas de figure, il appartient avant tout au peuple autochtone de décider du degré d'autonomie qui lui permet d'exercer sa souveraineté inhérente. Il faut dire toutefois que la DNUDPA épouse ces différents paramètres sans les nommer de manière explicite. Dans cette déclaration, le droit à l'autonomie comprend le droit générique d'être autonome dans les affaires locales et internes, ce qui comprend le droit de décider de ses représentants selon ses propres procédures, ainsi que d'avoir des moyens financiers autonomes pour se gouverner. Il faut relever ici la difficulté d'opérer une rupture nette entre les affaires locales et internes et les autres enjeux, les uns étant parfois intimement liés aux autres, comme peuvent l'être les questions touchant les changements climatiques, pour ne donner que cet exemple. La limitation dans le texte de la DNUDPA aux affaires locales et internes pose aussi la question du droit des peuples et nations autochtones au prolongement de leurs responsabilités au-delà des frontières de l'État-nation coloniale, suivant, par exemple, le modèle mis de l'avant par la doctrine Gérin-Lajoie. Depuis 1965, cette doctrine met de l'avant la volonté du Québec d'être un acteur sur la scène internationale dans ses domaines de compétences constitutionnelles. Selon cette approche, non seulement le Québec est-il constitutionnellement responsable de la mise en œuvre des traités conclus à l'international, mais il aurait aussi la volonté de conclure lui-même des traités internationaux touchant ses champs de compétences. Poussées encore plus loin, ces réflexions nous amènent à penser le décloisonnement de l'État. Comment, par exemple, les droits à l'autonomie et à la participation prévus à la DNUDPA peuvent-ils appuyer l'idée de la reconnaissance de la personnalité juridique internationale aux corps politiques intermédiaires que sont les peuples et nations? Le droit à l'autonomie comprend enfin certainement le droit de préserver et de renforcer les institutions de gouvernance, incluant les traditions et ordres politiques et juridiques qu'elles sous-tendent, et de se développer socio-économiquement, politiquement et culturellement. Ce droit comprend par conséquent plusieurs facettes. Autonomie politique et juridique, culturelle, sociale et économique. Son exercice est tributaire de l'exercice des autres droits inscrits dans la DNUDPA droit culturel, droit à la terre et aux ressources, etc., et inversement. La DNUDPA ne pose pas de conditions quant aux modalités d'exercice de l'autonomie, sources, reconnaissance, modalités d'intégration aux structures étatiques, etc., ni en ce qui concerne le recours à la négociation avec l'État ou à la reconnaissance étatique. Elle rappelle néanmoins que, comme tous les droits, le droit à l'autonomie n'est pas absolu. Selon notre compréhension des travaux menés par le Groupe international de travail sur les affaires autochtones, IWGIA, la légitimité des processus décisionnels constituerait l'élément clé du respect, de la protection et de la mise en œuvre du droit à l'autonomie. Au niveau de sa mise en œuvre, l'autonomie n'est réalistement envisageable qu'avec un accès aux moyens de l'exercer. Prenons exemple sur la dimension économique de l'autonomie. L'autonomie économique se définit comme la capacité d'une entité, peuple, nation, communauté, municipalité, etc., de prendre des décisions de manière indépendante au sujet de son avenir économique. Ne posant pas de conditions quant aux modalités d'exercice de l'autonomie économique, la DNUDPA laisse dans l'ombre la question des moyens effectifs de sa mise en œuvre. Or, le seul fait de posséder des droits à l'autodétermination ne garantit aucunement aux peuples autochtones les moyens nécessaires à leur réalisation. Il suffit de poser un regard sur l'actualité pour constater les nombreux litiges et conflits relatifs au manque d'accès au territoire qui menacent leur façon de vivre et pour comprendre qu'ils ne possèdent très souvent pas les moyens pour exercer librement leurs ambitions en matière de développement économique. À travers le monde, les peuples autochtones dénoncent justement le manque d'accès au territoire, ce qui, du point de vue de l'économie de marché, signifie aussi un manque d'accès aux ressources naturelles et aux capitaux nécessaires à leur autonomie. À ce propos, les Nations unies mentionnent d'ailleurs que les plans de développement économique de nombreux pays ignorent fréquemment les peuples autochtones ou ne prennent pas suffisamment en considération leur point de vue et leurs besoins particuliers. Il y a donc pour les peuples autochtones un besoin de réelle liberté dans les choix économiques qui les concernent. Considérant que le développement économique d'une communauté repose sur des actions collectives visant à mobiliser les ressources afin d'améliorer le bien-être et l'autosuffisance de sa population, l'autonomie économique s'en trouve liée à l'autonomie politique et culturelle, sans que cependant ces liens soient bien définis par la littérature. L'inverse est également vrai, en ce sens qu'il n'y a pas d'autonomie politique sans autonomie économique et culturelle. À ceci, Fortin offre l'explication que, dans les sociétés libres, les pouvoirs économiques se nourrissent de prospérité. Ellipse. Les gouvernements de ces mêmes sociétés ont plus de facilité à gouverner et à se maintenir en poste lorsqu'ils sont associés au développement et à la création de richesses. Cornell et Kalt expliquent cette interrelation par le fait que, d'un point de vue politique, la meilleure défense de la souveraineté d'une nation autochtone est son exercice. Sur le plan économique, l'autonomie politique augmenterait la perspective d'une utilisation durable du territoire. Puis, culturellement, l'autonomie se déploierait d'une manière qui reflèterait les choix propres à la nation en la plaçant en position de contrôle des entreprises, stratégies et impacts de leur développement économique. Malgré la validité morale que le droit à l'autonomie économique représente, cela ne rend pas sa réalisation simple, ni n'assure sa traduction en stratégie et en impact concret. À l'instar de l'autonomie politique, la réalisation de l'autonomie économique est contextuelle et contingente de la volonté et de la capacité de chaque nation. Son adaptation en stratégie concrète et contextualisée demeure donc un défi. Parmi les quelques auteurs s'étant penchés sur l'autonomie économique en contexte autochtone, Arthur suggère qu'au-delà d'une simple volonté politique, l'autonomie économique dépend de la capacité des peuples à mobiliser des ressources et à accéder au marché. Sans cette forme d'autonomie, les peuples autochtones sont limités dans leur habilité à être proactifs dans leur développement et risquent de demeurer économiquement dépendants de l'aide extérieure. L'autonomie économique devient dès lors un jalon essentiel d'une autonomie positive permettant la construction d'un futur souhaitable en harmonie avec les aspirations des peuples, s'autonomiser pour. En tant que levier, l'autonomie économique permet de dépasser une autonomie négative qui cherche principalement à contrer les ingérences externes, s'autonomiser d'eux. À la lumière de cette distinction entre autonomie positive et négative, la notion d'autonomie économique permet de mieux comprendre l'influence du pouvoir économique des peuples autochtones sur leur capacité à satisfaire leurs objectifs en matière de développement. Ajoutons que, selon Cornell et Cart 2007, l'opérationnalisation de cette autonomie repose sur des institutions et des structures de gouvernance qui sont en adéquation avec les cultures, les besoins et les enjeux actuels des peuples autochtones. Dès lors, au regard de l'autonomie économique, l'application de la DNUDPA soulève plusieurs questions, notamment comment les peuples autochtones peuvent-ils financer et développer leurs activités économiques de manière autonome malgré les contraintes historiques et actuelles découlant du manque d'accès au territoire? Comment les peuples autochtones peuvent-ils exercer une autonomie dans l'élaboration de priorités afin de cultiver librement leurs ambitions en matière de développement économique? De quelle façon peuvent-ils exercer leur droit à une participation à la vie économique de l'État, article 5, si leurs besoins, objectifs et visions du développement ne sont pas pris en compte? À l'accès aux moyens économiques et physiques de l'autonomie économique se poserait donc la condition de la liberté de choix, mais également celle des conditions de son exercice. L'économie étant un jeu de relations, échanges, concurrence, collaboration, etc., elle peut inévitablement se dérouler en faveur du joueur dominant. C'est ce que suggère la mise en garde de Fortin, qui stipule que, sans une liberté d'intégration de la culture dans les choix d'une nation en matière de développement économique, celui-ci, le développement économique, peut également être le lieu d'une assimilation graduelle des cultures minoritaires emportées par le mouvement économique mondial. En ce sens, l'autonomie économique est un élément essentiel à l'exercice du droit à l'autodétermination puisque, par la liberté décisionnelle et l'accès aux moyens qu'elle exige, elle pose les conditions d'une participation autochtone à l'économie contemporaine. Conclusion. À l'aune de ce texte, l'apport de la DNUDPA se décline de la façon suivante. D'abord, elle confirme le droit des peuples autochtones à exercer leur libre choix politique, économique, juridique et culturel à son article 3. De plus, elle fait du droit à l'autodétermination la clé de lecture de l'ensemble des droits que possèdent les peuples autochtones, ce qui n'est pas le cas de textes internationaux antérieurs, tels la Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribunaux de l'Organisation internationale du travail. Ensuite, Les notions discutées dans cet article et inscrites dans la déclaration sont imbriquées les unes aux autres, telles des poupées gigognes. En clair, ces droits sont interdépendants. Enfin, malgré les conditions posées à l'article 46, qui réitère le principe de l'intégrité territoriale des États, ces notions laissent place à une diversité de matérialisations possibles en fonction des conceptions et des contextes locaux d'application. Elles laissent place aussi à l'ingéniosité juridique des nations autochtones qui sauront jouer avec les termes enchâssés dans la déclaration et adopter de nouvelles interprétations. C'était les notions d'autodétermination et d'autonomie dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, un texte de Doris Farget, Geneviève Motard et Émilie Fortin-Lefebvre, paru le 4 mai 2023 dans la revue Les Cahiers du Sierra.
Dans le Grand Vancouver, associations et institutions poussent les nouveaux arrivants à s'informer sur les communautés autochtones. Un texte de Suzanne Linhart, paru le 2 avril 2024 dans La Source à Vancouver. Avec ses cibles d'immigration importantes, le Canada accueille des personnes venues de tous horizons. À leur arrivée, peu d'entre elles connaissent l'histoire des communautés autochtones canadiennes. Dans le Grand Vancouver, de multiples ressources sensibilisent et poussent pour une meilleure diffusion. Nous sommes là depuis des milliers d'années, énonce une voix off sur des images de plaines canadiennes où paissent des bisons. Dans une vidéo diffusée par la Société de services aux immigrants de Colombie-Britannique, des représentants de communautés autochtones souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants en Inuvialuktun, Nsiliksen ou encore en Kanyaheka. En 6 minutes, le message rappelle l'existence des 600 communautés autochtones du Canada et leur relation avec la Terre, mais aussi l'oppression qu'elles ont subie après l'arrivée des colons anglais et français au 16e siècle. La vidéo compte près de 20 000 vues depuis sa publication en 2020. Une goutte d'eau en comparaison aux 450 000 immigrants qui arrivent chaque année dans le pays. Pour beaucoup d'entre eux, l'histoire des communautés autochtones canadiennes n'a pas été transmise à l'école et reste floue. Dans le Grand Vancouver, des associations et institutions s'attellent à diffuser des connaissances et à responsabiliser les nouveaux arrivants sur le territoire où ils ont choisi de poser leurs valises. Apprendre les bases. Entre les mâts totémiques à l'entrée du touristique Parc Stanley et l'extraordinaire sculpture en jade Haida-Gwaii, installée dans l'aéroport de Vancouver, l'art autochtone laisse quelques indices dans l'espace public. L'importance d'appuyer cet art est une des thématiques abordées au cours de conférences mises en place par la Bibliothèque publique de Vancouver. Organisées chaque trimestre depuis septembre 2022, elles ont réuni plus de 110 participants. Placer des œuvres autochtones à la place de l'architecture romane apportée par les Européens, c'est une manière de décoloniser l'art, souligne Léa, l'une des co-animatrices de la conférence tenue le 27 février 2024. Avec sa collègue Alex, elle alterne les prises de parole devant une dizaine de personnes à distance pour évoquer la symbolique de la reconnaissance des terres non cédées des nations Skamish, Musqueam et Tsleil-Waututh. Elles définissent aussi des notions comme la loi sur les Indiens, le processus de vérité et réconciliation ou encore l'histoire des écoles résidentielles. Bien que cette conférence soit destiné aux nouveaux arrivants, les services de la bibliothèque rapportent que plusieurs participants ne sont pas nouveaux sur le territoire, mais ont estimé avoir besoin d'un niveau d'instruction similaire. malgré un accroissement de la représentation autochtone. L'apprentissage de l'histoire et de la culture reste bien souvent une initiative personnelle. Adil Boussetta et Zoé Lefebvre se sont installés en 2014 à Vancouver. Quand on est arrivé, on ne connaissait rien. On ne savait même pas que la Colombie-Britannique était la province où il y avait le plus d'Autochtones. On ne savait pas ce qu'était la loi sur les Indiens, ni les réserves. Aucune sensibilisation, se remémore Adil Boussetta. Ils ont développé leurs connaissances par l'intermédiaire de leurs colocataires, mais aussi après la découverte et la médiatisation en 2021 de tombes provenant des anciennes écoles résidentielles tenues par l'Église catholique. Un mémorial avait été installé à Robson Square cette même année. Il y a tellement de choses à comprendre quand on s'installe dans un nouveau pays. Pour les migrants économiques et les réfugiés qui fuient une situation de danger, c'est normal que les considérations autochtones ne soient pas une priorité, puisque ça part d'une démarche personnelle de s'informer. Ça pourrait être une condition requise dans le test de citoyenneté, songe Zoé Lefebvre. Des stéréotypes qui persistent. Si les conférences de la bibliothèque publique posent les bases, elles permettent aussi d'avoir accès à de nombreuses ressources pour approfondir le sujet. De la même manière, le partenariat communautaire local de Surrey a publié en 2021 le premier guide des Premières Nations de Surrey pour les nouveaux arrivants. Le document a été traduit en coréen, français, hindi, punjabi, tagalog et mandarin afin de toucher le plus grand nombre. Au-delà des notions clés, un chapitre aborde le racisme anti-autochtone et les stéréotypes qui persistent aujourd'hui. Il explique pourquoi certaines croyances telles que les autochtones ne paieraient pas d'impôts et auraient plus de problèmes de toxicomanie et de criminalité sont fausses. En plus du racisme subi, d'autres enjeux liés à l'exploitation des terres et des ressources naturelles subsistent pour certaines communautés. Si connaître l'histoire des peuples autochtones est primordial, s'informer sur les inégalités auxquelles ils font face est tout autant nécessaire. C'était, dans le Grand Vancouver, associations et institutions poussent les nouveaux arrivants à s'informer sur les communautés autochtones, un texte de Suzanne Linhard, paru le 2 avril 2024 dans La Source à Vancouver.
En juin, je lis Autochtones, jeunesse. 16 suggestions de lecture parues en juin 2024 dans le carnet Je lis Autochtones. 1. Belle comme toi, belle comme moi, par Tasha Spillett Sumner et Selani Pereira, illustration, traduction, Maguette Diouf, paru chez Scholastique. Un jour, Izzy se rend compte qu'elle n'a pas la même couleur de peau que sa maman. Elle voudrait tant lui ressembler. Sa mère lui montrera alors différentes mamans qui se trouvent dans la nature avec leurs enfants. La petite fille découvrira ainsi que, même si les enfants ne ressemblent pas en tout point à leur maman, ils sont tout aussi beaux. 2. Béni, le bananosaure, par Sarabeth Metu Alivaktuk Holden et Emma Peterson, illustration, traduction, Maxime Desjardins, paru chez Les Malins. Béni adore les dinosaures et les bananes. Mais peut-on devenir une banane à force de trop en manger? C'est assurément le rêve de Béni. Un album drôle, divertissant, charmant, aux illustrations colorées et dynamiques, qui montre qu'avec un peu d'imagination, on peut tout faire. 3. Chaque enfant compte, par Phyllis Webstad et Carlin Harvey, illustration, traduction Marie-Christine Payette, paru chez Medicine Wheel. Phyllis Webstad est l'initiatrice de la journée du chandail orange, dont le but est de sensibiliser les gens aux répercussions que les pensionnats autochtones ont eues. Dans cet album jeunesse, elle raconte l'histoire derrière cette initiative. Elle montre également la résilience et l'importance de chacun des jeunes pensionnaires. 4. Cher Pissenlit, par S.G. Okemo, traduction Sylvie Nicolas, paru chez Édition Aninorak. Véritable ode poétique au pissenlit, ces mauvaises herbes mal aimées qui pourtant sont nécessaires à l'écosystème. Les enfants, comme les grands, ne verront plus jamais ces petites fleurs jaunes de la même façon. 5. Héros autochtones, par Wab Kinyu et Joe Morse, illustration, traduction Marie-Hélène Duval et Roger Roulette, paru chez Plaine. Wab Kinyu présente ici un album jeunesse aux illustrations magistrales écrites en français et en ojibwé. Il y met en vedette des héros autochtones et leur histoire renversante et inspirante. 6. Les animaux arctiques de 1 à 10, par Coco Apungwak, Linje. Traduction Laurence Taillebois, paru chez Les Malins. Les petits apprendront à compter grâce aux sublimes animaux arctiques illustrés par Coco Apungwak Linje. Ce tout carton trop mignon charmera par ses jolies rimes et ses jeunes personnages attachants, Kuluk et Assa. 7. Le chant vers la maison, par David Hay Robertson et Maya McKibben, illustration, traduction Kateri Aubin-Dubois, paru chez Scholastic. Inspiré d'une légende autochtone, ce livre illustré raconte l'histoire d'un petit frère aspiré par les Memekwe Sewak dans les tréfonds de la mer lors d'une partie de pêche avec sa sœur. Celle-ci devra prendre tout son courage pour l'extraire de l'envoûtement de ces étranges créatures. 8. Le grand chef Salamu Cook arrive en ville, par Thompson Highway et Delphine Renan, illustration, paru chez La Montagne Secrète. Whiskits a une grande nouvelle à annoncer à tous les lapins de la vallée. Le grand chef Salamu Cook arrive en ville. En plus, il organise un concours qui permettra à un lapin de gagner un approvisionnement d'un an en jus de Whiskits. Ce jus pourrait bien guérir la femme du frère de Whiskits. Celui-ci relèvera-t-il le défi? Un livre incluant plusieurs chansons cris que vous pourrez écouter en ligne grâce aux liens compris dans l'album. 9. Les incroyables aventures de Marie-Jeanne Maringouin, par Thompson Highway et Sue Todd, illustration, traduction Carl-Philippe Gionnet, paru chez Prise de parole. Un magnifique album présenté comme une comédie musicale où les différences sont à l'honneur. Marie-Jeanne est la seule maringouin à ne pas avoir d'aile et elle vit de l'intimidation. Toutefois, la jeune fille se rendra compte qu'elle n'a pas besoin d'aile pour s'élever. 10. Le jardin de Kaya, par Mélanie Florence et Carlin Harvey, illustration, traduction Kateri Aubin-Dubois, paru chez Scholastic. À la suite d'un déménagement, la jeune Kaya broie du noir et s'ennuie terriblement de sa grand-mère. Heureusement, elle pourra compter sur les créations en perlage réalisées avec son aïeul pour se remémorer de beaux souvenirs et la sentir plus près d'elle malgré la distance. Apprenez-en davantage sur l'art du perlage dans cet album haut en couleur. 11. Le premier arbre de Noël, par Ovila Fontaine et Charlotte Parent, illustration, paru chez La Pastèque. Ce conte pour la jeunesse nous fait découvrir la manière dont le sapin a été choisi pour être le premier arbre de Noël. C'est une visite de la forêt, des animaux et des végétaux. Les illustrations originales accompagnent parfaitement le récit. 12. Mino, la fille qui est devenue mi-poisson, par Willie Paul et Bailey Macabre, illustration, traduction Marie-Christine Payette, paru chez Medicine Wheel. un livre environnemental sur l'importance de préserver les cours d'eau. Mino est dévasté par les déchets qui s'accumulent autour de l'eau. Par un étrange phénomène, elle se change en fille poisson et parcourt l'étendue des dégâts marins. De retour sur la terre ferme, elle militera activement pour faire changer les choses. L'écriture tout en rime donne une superbe musicalité au récit militant. 13. Michaud Miss raconte les traités. Par Amy Craft et Luke Swenson. Illustration, traduction Louise Binette, parue chez Plaine. Une jeune fille regarde la rivière couler avec son grand-père. Ce sera un moment de partage et d'enseignement, notamment sur les relations avec la nature, les traités et le respect nécessaire à une vie en harmonie. Un album jeunesse instructif en plus d'être divertissant, accompagné d'illustrations minimalistes de toute beauté. 14. Nout Schmidt, un bain de forêt. Par Mélissa Molène Dupuis et Élise Gravel, illustration, paru chez Scholastique. Ce projet collaboratif entre Mélissa Molène Dupuis et Élise Gravel est un excellent moyen pour les jeunes d'en apprendre plus sur la culture Innu et sur le rapport des Innu avec la forêt. 15. Piari et le grand guerrier. Par Syrah Chaillé, Piari Koki Gentes et Geneviève Biguet, illustration, chez Québec Amérique. Piari vit une grande tristesse, coincé au milieu d'une rivière qu'il nourrit de ses larmes. C'est alors qu'un grand guerrier apparaît devant lui et l'encourage à avancer malgré le chagrin. Le jeune Inuk réussit à faire un pas, puis un autre, et se met à rêver d'un voyage en Mongolie pour chasser la grisaille qui le suit. Lors de son périple, Piari parviendra-t-il à faire disparaître son nuage gris pour toujours? 16. Skye la conteuse. Par Lindsay Christina King et Caroline Frank. Illustration, traduction Marie-Christine Payette, paru chez Medicine Wheel. Dans ce recueil de contes drôles et uniques, la jeune Skye nous guide dans de nombreux enseignements autochtones que son grand-père Ojibwe lui a transmis. Grâce à son talent naturel de conteuse, Skye encourage les autres enfants à adopter cet art et à raconter des histoires à leur tour. C'était, en juin, Je lis autochtone, jeunesse, 16 suggestions de lecture parues en juin 2024 dans le carnet « Je lis autochtone ».
La bibliothèque Wiwa à UBC, gardienne du savoir autochtone. Un texte de Marc Béliveau, paru le 9 janvier 2024 dans La Source à Vancouver. La seule bibliothèque autochtone universitaire au Canada se trouve à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle se distingue par son engagement à fournir des ressources et des services axés sur les peuples autochtones en mettant l'accent sur les savoirs, les cultures et les récits autochtones. Mis à part sa documentation et ses activités de sensibilisation, la bibliothèque Wiwa est réputée pour sa création et l'utilisation d'un système de référencement unique qui s'inscrit dans un effort de décolonisation dans le cadre des études autochtones. La bibliothèque Wiwa a vu le jour dans les années 1970 avec la création de l'Indian Education Resource Center. À cette époque, de plus en plus d'Autochtones déménagent dans les grandes villes canadiennes, au point où, aujourd'hui, plus de la moitié de sa population habite en milieu urbain. En 1993, la bibliothèque emménage à son tour dans ses locaux actuels, dans l'édifice Longhouse des Premières Nations, sur le campus de UBC. Et les diverses collections de la bibliothèque Wiwa deviennent une succursale de la grande bibliothèque de l'UBC. Aujourd'hui, la bibliothèque amérindienne propose une variété de collections d'environ 12 000 articles, dont environ 6 000 livres, 450 vidéos, 5000 documents de fichiers verticaux, des ressources pédagogiques, des revues et journaux, des cartes, des affiches, des thèses et des mémoires. La bibliothèque GA, collection spéciale, Bodmins et quelques documents d'archives. La bibliothèque est dépositaire également des documents rédigés du point de vue des Premières Nations, tels que des documents produits par les organisations des Premières Nations, des conseils tribaux, des écoles, des chercheurs et des universitaires autochtones. Un système de classement unique. Kayla Larson est chargée des programmes de sensibilisation et d'activités éducatives. Elle détient aussi une maîtrise en bibliothéconomie. Dans ses présentations, elle souligne que la bibliothèque Wewa est souvent citée pour son expertise et le système de classification qu'elle a mis au point. Les pratiques en matière de bibliothéconomie ne sont pas universelles. Elles reflètent des compréhensions socialement reconstruites du savoir et de ses représentations. Du coup, ajoute-t-elle, en raison de la nature orale et collective du savoir autochtone, il a fallu développer de nouveaux outils de classification afin de rendre les ressources accessibles aux utilisateurs et cesser de perpétrer une représentation inexacte et dépassée de la culture autochtone. Le Canada, ses lieux et ses noms amérindiens. Rien n'est comparable à une carte immense pour se représenter la présence autochtone et métisse à travers le pays, indiquant le territoire spécifique des différentes tribus et les noms autochtones de divers lieux d'habitation. Il existe une vingtaine de ces immenses images en circulation au Canada. Leur dimension est colossale, de 25 par 35 pieds. Et elles peuvent être utilisées dans les écoles de la province. L'avantage, c'est qu'il est possible de déambuler sur la surface de cette carte faite d'un tissu résistant. Y a-t-il du matériel en français? La bibliothèque Wewa offre notamment une série de livres qui peuvent être empruntés. Kayla Larson souligne aussi qu'il y a, au sein du réseau de la Bibliothèque publique de Vancouver, plusieurs documents, rapports et écrits variés et ouvrages, y compris des livres, pouvant familiariser les résidents sur la présence autochtone historique à Vancouver et dans la province. Cette initiative s'inscrit également dans la foulée des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation en 2015. Kayla Larson fait état dans ses présentations publiques que la bibliothèque Wewa possède du matériel pédagogique en français qui peut être emprunté et être utilisé dans les écoles francophones et d'immersion en Colombie-Britannique. C'était la bibliothèque Wewa à UBC, gardienne du savoir autochtone, un texte de Marc Béliveau, paru le 9 janvier 2024 dans La Source à Vancouver.